Je me rends compte que j'ai pas vraiment fait beaucoup de progrès en photographie. Je pense que mes intérêts finalement étaient là dès le départ. C'est vrai que je suis toujours très attirée par tout ce qui est humain. Et dès le départ, je faisais des portraits, que ce soit des portraits intimistes des gens dans leur vie quotidienne, dans leur vie personnelle, ou bien finalement ma façon d'approcher les gens aussi dans la rue, c'était d'essayer de rentrer en conversation, de faire des portraits, mais disons que je ne fais pas de distinction entre les personnalités et puis les gens que je peux rencontrer dans la rue. Je m'en suis rendu compte en regardant mes archives, qu'il y a quand même une continuité. Évidemment, les sujets changent. Au départ, quand j'ai commencé à photographier, c'était en mai 68, donc évidemment, j'étais très impliquée. Ça a été vraiment mes premiers reportages. Mais par contre, mes premières commandes, c'était plutôt des portraits. J'ai travaillé pour le New York Times, pour Vogue. On me demandait des portraits d'écrivains, de peintres, de sculpteurs. Parce que j'ai eu une formation d'historienne d'art, donc en fait, j'ai toujours été attirée par les créateurs. Et ça continue.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Pourquoi faut-il le plus souvent possible préférer la radio à la télévision ? Parce que la voix, elle, ne ment pas. Sur un écran, celui ou celle qui parle, célèbre ou inconnu, inconsciemment, va jouer. Jouer son propre rôle, celui que la caméra l'oblige à tenir. Jouer celui ou celle qu'il ou elle aimerait être. Ou se figure être. À la radio, du moins quand il n'y a pas de captation vidéo, cette nouvelle mode insupportable, l'intimité du questionnement permet lenteur, réflexion, sincérité. Et puis surtout, l'oreille de l'auditeur va percevoir immédiatement si celui ou celle qui s'exprime répond pour de vrai aux questions, en même temps que les nuances de son véritable moi, modeste ou vaniteux, superficiel ou réfléchi, élégant ou vulgaire. Ainsi, la voix que l'on vient d'entendre, celle de la photographe Martine Franck, nous a dit en quelques secondes ce qu'elle était. Élégante, modeste, réfléchie, humaine, engagée. Reste à regarder son œuvre, cet héritage en noir et blanc qu'elle a toujours préféré à la couleur et qui nous en dit aussi beaucoup sur la grande photo-reporter qu'elle a été. Incroyablement douée, empathique, plutôt tournée vers la vie que vers les horreurs de son temps, le nôtre. Il faut aller voir la belle rétrospective que lui consacre jusqu'au 10 février la Fondation Cartier-Bresson qu'elle a contribué à créer et qui inaugure ainsi ses nouveaux locaux au 79 rue des Archives. Agnès Cyr, sa directrice artistique, a également dirigé l'édition du catalogue paru chez Xavier Barral. Bonsoir Agnès Cyr.
Bonsoir.
Cette année, donc, la Fondation Cartier-Bresson a quitté le quartier Montparnasse pour aller dans le Marais, pas très loin du musée Picasso. Il était évident pour vous que cette nouvelle fondation Cartier-Bresson ne pouvait s'inaugurer qu'avec l'œuvre de Martine Franck parce qu'elle a tellement œuvré pour cette fondation et elle a participé elle-même d'ailleurs à l'aménagement de ces nouveaux locaux.
Oui, Martine Franck a été vraiment la cheville ouvrière de cette fondation. D'abord puisqu'elle était artiste elle-même et qu'elle n'avait pas envie de porter le poids de l'œuvre de son époux Henri Cartier-Bresson, mais aussi parce qu'elle avait le sens du partage, le sens de la transmission et qu'elle a grandi dans une famille où on collectionnait l'art et on aimait le partager. Donc c'était quelque chose d'évident pour elle qu'il fallait s'engager dans cette fondation. Maintenant, j'aurais beaucoup préféré avoir Martine à côté de moi pour l'ouverture de la fondation plutôt que son exposition. Et si elle avait été vivante, il n'y aurait pas eu d'exposition de Martine Franck, puisque c'est dans la volonté des fondateurs de la fondation de ne pas présenter leur œuvre, mais l'œuvre d'autres photographes comme nous l'avons fait depuis 15 ans.
Et pourtant, dans ces nouveaux locaux, Agnès Cyr, il y a maintenant la possibilité quand même de voir en permanence les œuvres de Cartier-Bresson dans une sorte de petit
préambule, ce sont les archives qui vont tourner régulièrement et vous allez quand même montrer, parce que il faut quand même dire que beaucoup de vos visiteurs ont envie de voir du Cartier-Bresson. J'espère qu'ils auront envie de voir du Martine Franck et que peut-être on pourra mettre les deux créateurs de cette belle institution côte à côte grâce aux archives.
Oui, bien sûr. Alors, ce à quoi vous faites allusion, c'est le programme qui s'appelle La Perle des Archives que François Hébel a lancé, effectivement, qui émane de la conservation de nos collections et qui vise à raconter de façon assez légère la vie très longue de ce grand photographe. Mais nous avons souhaité consacrer tout l'espace d'exposition à Martine Franck pour l'ouverture. Mais désormais, à partir de la prochaine exposition, il y aura au fond la galerie des collections. Et donc, il y aura toujours ou Henri Cartier-Bresson ou Martine Franck qui sera présenté pendant les expositions temporaires.
Agnès Sire, vous avez beaucoup travaillé avec Martine Franck. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette femme pour laquelle vous aviez à la fois amitié et admiration ?
La vanité n'existait pas pour elle. C'est assez touchant. Je n'avais pas entendu depuis longtemps cet enregistrement que vous venez de nous faire entendre. C'est quelque chose qui lui était totalement étranger. C'est quelqu'un qui aimait profondément la vie. Et dans sa description de ce qu'elle est, en parlant des portraits, en parlant de la rue, j'étais un petit peu étonnée qu'elle dise qu'elle est tout le temps attirée par les gens, parce qu'en fait, elle a été aussi beaucoup attirée par la pierre, par la sculpture, par les paysages où il n'y a personne. Et preuve en sont les grands tirages qui clôturent l'exposition, qui sont des grandes images très minérales en Chine, au Japon, où il n'y a pas âme qui vive. Et c'est l'exposition qu'elle a conçue pour la galerie Howard Greenberg à New York, qui a eu lieu 2 mois après son décès. Donc elle avait choisi le format très grand, elle avait choisi les images minérales, la poussière, alors qu'elle savait qu'elle allait quitter ce monde.
Et ces photographies, vous pensez, Agnès Sire, que c'était au fond son moi le plus profond, le plus secret qu'elle exprimait ainsi? Parce que c'est très difficile quand on est photoreporteur de faire comme ça, à ce point, des photographies de paysages.
Oui, je pense que c'est vraiment son moi profond. Je ne pense pas que Martine était photoreporter au sens où on l'entend en général. D'ailleurs, son époux disait tout le temps « Martine n'est pas faite pour le trottoir ». C'est quelqu'un qui était plutôt dans la réflexion, dans la méditation et qui n'aimait pas tellement saisir au vol les gens. À part quelques photos d'enfants qu'elle a merveilleusement réussi parce qu'elle avait beaucoup d'empathie avec les enfants. Mais la plupart de ses portraits, que ce soit de personnes âgées, célèbres ou pas du tout célèbres, sont prises plutôt dans un instant de silence, d'échange avec la personne, alors que la personne photographiée se tait tout d'un coup, arrête de sourire et rentre un petit peu en elle-même. Donc, bon, on peut se voir aussi de façon très différente, mais elle a quand même fait sa thèse sur la sculpture et le surréalisme. Son premier projet, c'est un livre sur Étienne Martin. Et effectivement, comme elle était très engagée, c'était en même temps que mai 68, en même temps que les mouvements du MLF qu'elle a beaucoup suivi, le torchon brûle et tout ça. Elle n'était pas du tout destinée à ce genre d'atmosphère. Martine venait d'un milieu bourgeois, de collectionneur, et elle s'est retrouvée dans le feu des flammes à Paris.
Elle a rencontré donc Henri Cartier-Bresson, qui va devenir son ami, son ami, oui, et son mari, au début des années 70. On va l'écouter, c'est une archive de 2011, donc peu de temps avant sa mort, où elle parlait, parce qu'on lui posait toujours la question, mais comment fait-on pour vivre à l'ombre d'un grand photographe comme Cartier-Bresson? En fait, elle vivait pas du tout dans son ombre, et elle savait très bien mener sa route à côté de lui.
J'ai eu beaucoup de chance. Souvent, les gens me disent, mais vous deviez avoir un rapport de force, vous deviez être jalouse, vous deviez avoir une vie professionnelle très compliquée, puisqu'Henri était si connu. Mais Henri était d'une grande générosité. Il m'a toujours encouragée, il m'a toujours poussée à faire ce que je devais faire. Je sais qu'il aimait beaucoup mes portraits, et il me disait toujours, continue. J'ai pas besoin de toi à la maison, il faut que tu sortes, il faut que tu t'affirmes, il faut que tu t'exprimes. Et ça, je pense que c'est pas toujours le cas. Et peu importe l'âge, c'était sa façon d'être. Il avait un côté très juvénile, un côté très compréhensif, un côté très ouvert, et je pense que j'ai beaucoup de chance.
Agnès Cyr, ces deux grands photographes se respectaient énormément. Est-ce qu'ils allaient l'un et l'autre quêter un agrément, un accord, une critique?
Alors, Martine Franck a eu beaucoup de chance, puisque quand elle a rencontré Henri Cartier-Bresson en 1968, ils se sont mariés en 70. Henri Cartier-Bresson venait juste de décider d'arrêter la photographie. Il ne voulait plus continuer à prendre des commandes de reportage, il avait 60 ans révolus. Son éditeur bien-aimé, Thériade, lui disait « tu te répètes, retourne au dessin, retourne à la photo ». Donc c'est vraiment dans ce contexte que Martine a rencontré Henri Cartier-Bresson, qui était célébrissime, qui avait des livres qui sortaient, des expositions qui tournaient. Donc en fait, sa réputation à lui était largement faite, et laisser toute la place à la à jeune Martine, puisqu'elle avait 30 ans de moins que lui, pour exister. Et je dirais que Henri a beaucoup, beaucoup encouragé Martine, elle dit tout à fait vrai. Martine lui montrait volontiers ses images. Je ne suis pas certaine que ça se faisait beaucoup dans l'autre sens, puisque Henri photographiait beaucoup moins. En fait, il avait des modèles qui venait à l'atelier, donc il faisait parfois des photos de modèles, et d'ailleurs dans l'exposition en 2014 au Centre Pompidou, une des dernières images, c'est une photo qu'il a prise de ces deux modèles nus qu'il était en train de dessiner, qui ressemble étrangement à sa photo de 1934 des deux filles nues sur un lit au Mexique. Donc, il avait d'autres préoccupations, et il produisait assez peu de photos nouvelles. Donc, la question était un peu déportée par cette différence dans leur carrière.
D'ailleurs, on sait que Henri Cartier-Bresson ne supportait pas qu'on le prenne en photo, il l'interdisait absolument, et il y a dans les photos de Martine Franck cet autoportrait merveilleux de lui, où en fait elle le prend en train de se regarder dans une glace parce qu'il est en train de dessiner son autoportrait. Mmh. Je trouve que c'est une image qui dit beaucoup de la relation amicale et ironique aussi de ces deux grands artistes.
Oui, c'était le jour de l'anniversaire de Martine, donc un tout début avril. Et Henri lui a demandé le matin qu'est-ce qu'elle voulait comme cadeau. Et elle lui a répondu « le droit de te photographier en paix ». Et comme il faisait beaucoup ça, des autoportraits, c'est curieux parce qu'effectivement il n'aimait pas voir des photos de lui, mais en dessin il a fait beaucoup d'autoportraits. Et il était installé rue de Rivoli devant le jardin des Tuileries, et on voit effectivement, l'angle est parfait, on le voit très bien en train d'achever un dessin, et le miroir au-dessus, c'est une très belle image, mais vous voyez, Martine lui a demandé la permission. Elle savait qu'il n'aimait pas. C'est pas qu'elle avait peur de lui, mais c'est pas bien de prendre un portrait de quelqu'un qui ne veut pas. En tout cas, c'est pas du tout dans l'esprit de Martine. Martine, quand elle a fait ses grands portraits comme Arpad Sénèche et Viera da Silva, ou Albert Cohen, ou Hervé Guibert, c'est des gens qui savent qu'elle est là, qui apprécient la relation, et qui tout d'un coup, après une bonne conversation, le silence tombe, et là, la photo peut être prise. Cartier-Bresson faisait pas comme ça. Je me rappelle de propos rapportés d'Yves Saint-Laurent, très amusant, où Henri va pour le photographier pour un journal, et puis il rentre, et puis furette dans l'atelier, il regarde tout ce qu'il voit autour, etc. Au bout d'un moment, Yves Saint-Laurent, très 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 tendu, il lui dit, mais on l'a fait quand, la photo? Et il a répondu, il y a bien longtemps que je l'ai prise. Mmh. Donc, c'était une autre façon de faire.
Alors, en fait, Martine Franck, on a le sentiment qu'elle a mis un certain temps avant de devenir la photographe qu'elle est devenue. On l'entendait dans l'archive de l'Accroche dire qu'elle a fait des études d'histoire de l'art. D'ailleurs, c'est avec ce regard intéressé par la beauté du monde qu'elle a commencé. Elle a commencé dans les années 60 avec sa grande amie Ariane Nouchkine à parcourir le monde, notamment l'Asie, l'Extrême-Orient. Ça a été très important pour elle. Et puis, dans les années 70, elle est devenue une photographe d'agence. Elle a fondé l'agence Viva, et elle a commencé à faire du reportage, mais avec une façon très particulière. Elle n'aimait pas les choses violentes, elle n'aimait pas photographier la mort, l'horreur, mais elle dit, on va l'écouter dans une archive de 1998, dire quand même qu'elle avait une mauvaise conscience dans ce monde et que ça transparaissait dans ses photos.
Je pense, oui, je me sens comme témoin de mon temps, et et peut-être c'est ma façon justement de me situer par rapport à ce qui m'entoure, par rapport aux gens, par rapport aux événements. On veut laisser les traces, c'est vrai. On a mauvaise conscience, forcément. On a mauvaise conscience. On est quand même des privilégiés d'avoir pu choisir leur métier de par son éducation. Et oui, effectivement, au départ, je pense qu'il y a une grande mauvaise conscience. Je l'avoue, et j'espère que les autres auront mauvaise conscience, parce que si les autres n'ont pas mauvaise conscience, rien ne changera. Moi, j'ai pas honte d'avoir mauvaise conscience, mais l'important, c'est de réagir, c'est de faire quelque chose, c'est d'essayer de changer les mentalités. Je ne crois pas qu'on peut peut-être faire évoluer des mentalités, mais je ne pense pas qu'on change grand-chose en faisant des photos.
Agnès Cyr, Martine Franck a témoigné de son temps, de son époque, de ce qu'elle y a vu, mais avec une façon plus amicale. C'était Robert Doisneau, je crois, qui disait à son propos qu'elle avait un regard amical sur le monde.
Oui, il a dit ça dans un texte qu'il a écrit pour introduire un livre de Martine sur les personnes âgées. Et il parle du regard amical de Martine Franck sur les personnes âgées. Et c'est vrai que très tôt, elle s'est intéressée au visage un petit peu abîmé, aux personnes un petit peu délaissées, mais aussi bien pour les personnalités, les portraits de personnes connues, c'est plus souvent des visages usés, des gens qui sont dans la phase peut-être un peu descendante de leur vie. Alors bon, on peut aussi se dire que des gens connus dont on demande le portrait sont rarement des débutants, sauf dans le rock'n'roll et la pop musique ou je ne sais quel rap ou autre. Mais c'est assez curieux et elle a un regard extrêmement doux. Je pense que les gens qu'elle photographie se sentent bien avec elle. C'est pas du tout une photographie volée, à l'inverse de ce que fait plutôt son époux. C'est une photographie avec un temps de réflexion, un temps de... On se jauge l'un l'autre, et c'est toujours de façon amicale. Je l'oppose régulièrement à William Klein, qui est un photographe très intéressant, mais qui est à l'opposé. Il arrache quelque chose avec violence, et c'est ça qui fait la force de ses photos. Mais si vous regardez le portrait, par exemple, d'Albert Cohen, de Martine Franck, c'est un portrait qu'elle a fait très tôt, je ne sais plus si c'est 67 ou 68, quand il a eu le Grand Prix pour son...
Pour Belle du Seigneur.
Pour Belle du Seigneur. Ouais. C'est un portrait qui traverse les âges totalement. Il n'y a pas d'éclairage artificiel, il n'y a pas de théâtralisation. Il y a un mur, une chaise et un regard. Comme elle l'a dit d'ailleurs, il m'a donné un regard. Et elle a constaté que c'était ça qui était important pour le portrait. C'est que la personne aussi donne quelque chose. C'est pas seulement le photographe qui doit s'agiter, mais si en face on donne rien, c'est aussi un peu difficile. Mais bon, quelque part, on a ce qu'on mérite. C'est un petit peu ce qu'elle veut dire. Mais bon, en même temps, sa mauvaise conscience... Elle emploie ce terme, je ne sais pas s'il faut parler de mauvaise conscience ou de morale ou de...
D'éthique peut-être.
D'éthique, oui, c'est ça. Je pense que Martine avait pas mal de mauvaise conscience qui s'est résolue avec la création de la Fondation. En fait, Martine vient donc d'un milieu aisé, sa famille lui a donné des moyens. Elle était très mal à l'aise avec ça parce qu'elle s'intéressait au MLF, à mai 68. Elle vivait à Viva, il n'y avait que des photographes fauchés. Donc elle a toujours eu un petit peu... je sais pas, il y avait toujours une consonance, bon, elle est bourgeoise, un peu, alors que c'était une camarade formidable, une amie fidèle, pas du tout quelqu'un qui vivait dans le luxe. Et quand elle a fait cette fondation, tout d'un coup, elle s'est révélée, Martine. Elle a tout d'un coup compris que ces moyens que lui avait laissé sa famille allaient permettre cette fondation reconnue d'utilité publique et donc la transmission d'un patrimoine très important qui n'appartient plus du tout à la famille, mais reconnue d'utilité publique, et elle en était ravie. Et je dois dire que je l'ai connue bien avant la création de la Fondation, et j'ai trouvé que cette aventure l'avait vraiment épanouie.
D'ailleurs, dans le très beau catalogue dont vous avez dirigé l'édition, Agnès Cyr, il y a un texte assez ancien déjà, qui est un entretien de Dominique Aidé, qui était son ami. Dominique Aidé, belle écrivaine, qui emploie à propos de Martine Franck, pour la définir, des mots qui, on l'entendait dans sa voix, qui lui correspondent bien. C'est grâce et austérité.
Oui, je pense que Dominique a exactement trouvé ce qu'il fallait. En fait, pour tout vous dire, quand on a compris que Martine avait une maladie irrémédiable, on a eu une conversation qui n'était pas simple. Je lui expliquais qu'on allait donc déménager, elle le savait, qu'on allait évoluer dans un nouvel espace et que je voulais vraiment montrer son travail pour l'ouverture. Donc non, pas question, machin, puis finalement elle s'est laissé faire. Et on a commencé à préparer, à faire une sélection d'images large. Et je lui ai dit également, tu devrais faire un entretien. Parce que dans un livre, un entretien, c'est vraiment intéressant pour comprendre la personne, et puis il faut que tu choisisses la personne avec qui tu veux le faire. Donc cet entretien, certes, il paraît ancien maintenant parce qu'on a mis du temps à déménager, mais il a été fait quelques mois avant sa mort. Et elle a choisi Dominique Aidé, qui elle-même, je crois, se remettait d'une longue maladie. Et je suis très, très touchée par les échanges qu'elles ont, par exemple, sur l'arbre. Martine a beaucoup photographié les arbres. C'est quelque chose qui compte énormément pour elle. Et d'ailleurs, la dernière photo de l'exposition est un arbre à Montjustin, au cimetière, juste à côté du cimetière où ils sont enterrés tous les deux. C'est un hasard, mais c'est une photo d'arbre magnifique. Et Dominique Aidé échange avec elle là-dessus en lui disant « En étant très malade, n'avais-tu pas envie tout le temps, comme moi, de courir dans la nature et d'aller serrer un tronc d'arbre entre tes bras ?» Elle a répondu « C'est exactement ça. » Donc il y avait une conjonction, et quand elle parle d'austérité et de grâce, elle a très bien vu comment était Martine.
Et d'ailleurs, ces qualités, l'austérité et la grâce, c'est exactement à ça qu'on songe en regardant ces photos, parce qu'il faut dire que c'était une très bonne photographe en matière de construction de la photo, en matière de tirage aussi, les blancs, les gris, les noirs sont magnifiques. On va l'écouter répondre à une question qu'on lui a posée en 1994, c'est quoi pour vous une bonne photo? Et voilà ce qu'elle dit.
Une bonne photographie pour moi, je pense que c'est une photographie qui transmet une émotion, sans doute bien composée, car quand une photo est bien composée, elle est plus forte et l'émotion passe davantage. Mais je pense que c'est important qu'une émotion existe dans une photographie, car sinon on peut tomber dans l'esthétisme. L'émotion, c'est quand on est ému devant quelque chose, quand on est touché, quand on peut s'identifier. Ça peut être une émotion de compassion, ça peut être une émotion d'horreur, ça peut être une émotion d'amour, ou ça peut être de l'humour. Mais je pense que moi, ce qui me touche, c'est quand je ressens réellement quelque chose. Quand je ne ressens rien, ça ne m'intéresse pas particulièrement.
Agnès Cyr, en couverture du catalogue, vous avez choisi cette photo merveilleuse où on voit un petit enfant qui saute au-dessus de la mer. Et le premier plan de la photo sont des blocs de béton, des brise-lames, on dirait. Et la photo est construite en pyramide et on se dit, c'est pas possible, c'est une photo posée. Ben non, c'est une photo saisie. Alors elle qui ne faisait pas beaucoup de photos à l'instant, comme Henri Cartier-Bresson, là, tout d'un coup, instantanément, elle a pris la photo parfaite.
Oui, il y en a quelques-unes, il y en a deux ou trois, et c'est toujours avec des gens qui sautent. Évidemment, les gens qui sautent, on ne peut pas les saisir autrement. Mais cette photographie se situe en Inde. En fait, ce sont des vieilles barques renversées sur la plage. Et voilà, c'est quelqu'un qui bondit. Mais il y a aussi en Irlande des petites filles qui sautent d'un mur.
Avec leur ombre.
Voilà, avec leur ombre. Souvent avec les enfants, elle est parvenue, les petits Irlandais aussi qui mettent le feu à des voitures. Enfin, en jouant, ce n'est pas des vrais pistolets, mais elle n'aurait pas pu psychologiquement se trouver dans des scènes où il y avait vraiment de la violence véritable.
Mais elle avait cet œil-là qui caractérise le grand photographe, c'est tout d'un coup de savoir que là, la photo, elle est là. Elle est construite, elle est cadrée, elle est parfaite.
Saluer l'inattendu, comme elle disait. Mmh. C'est quelque chose... il fallait être prêt à saisir l'inattendu, fallait être ouvert, mais ça, c'est... la même chose, je crois, dans tous les arts, que ce soit la peinture, l'écriture. Enfin, il faut être ouvert à ce qui peut se produire, le saisir et après en faire son affaire, bien sûr. Après, il faut du style, il faut de la composition, il faut beaucoup de choses pour que ça ne soit pas mièvre ou mal fichu.
Lay, 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 lay across my big grass bed. Lay, 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 lay across my big grass bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you, and you'll see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed.
Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
A priori, j'ai commencé à faire de la photo en noir et blanc et je préfère personnellement travailler en noir et blanc, surtout quand je fais des portraits, car je trouve que la couleur finalement est trop réaliste. Quand on fait un portrait de quelqu'un, on n'a pas envie de leur dire de changer de vêtements ou que leur rouge à lèvres est trop rouge ou... Ce qui est difficile en couleur, c'est qu'on n'a pas la maîtrise de la couleur. C'est pas comme un peintre qui peut transposer. À moins qu'évidemment qu'on fasse des photos en studio et qu'on contrôle tout. Par contre, au théâtre, c'est déjà... Ça me gêne beaucoup moins parce que déjà, c'est une ambiance irréelle, théâtrale. Et la couleur, je crois, ajoute vraiment à ce qu'on voit. Mais je reviens sur l'idée de portrait en couleur. J'ai rarement vu des portraits en couleur qui soient plus beaux que des portraits en noir et blanc. Je pense que la transposition est très importante. Le côté un petit peu abstrait du noir et blanc laisse l'imagination libre. Alors que la couleur, ça vous ramène d'une façon trop terre à terre à ce qu'est la réalité. Il n'y a plus d'imaginaire.
Agnès Cyr, finalement, presque à part le Théâtre du Soleil d'Ariane Ouchkine, elle a fait très très peu de photos couleurs.
Oui, très peu. Elle a fait une tentative dans les années, fin des années 70, je crois, avec un livre qui était une commande sur la Provence, mais c'est vraiment pas, ça n'a pas été concluant. Le Théâtre du Soleil, qu'elle a photographié des débuts, d'ailleurs, jusqu'à sa fin à elle, elle a commencé à photographier en noir et blanc jusqu'à ce qu'elle se rende à l'évidence qu'évidemment, avec le travail sur la lumière, les décors, les costumes, il fallait vraiment travailler en couleur et photographier en couleur. Donc, cette partie de son travail a été vraiment très importante. Elle a beaucoup donné, mais elle considérait également que c'était un travail collectif, que c'était pas un travail personnel, que c'était un travail collectif. Donc c'est très présent dans l'ouvrage publié aux éditions Barral, et dans l'exposition, c'est présenté seulement dans les vitrines.
Et alors, ce qui est frappant dans cette série de portraits, vous nous en parliez il y a quelques minutes, Agnès Cyr, c'est qu'il y a la même intensité dans les portraits d'anonymes. Je pense notamment à son voyage en Inde, quand elle photographie des hommes, des vieux, souvent saisis dans la rue. On retrouve exactement la même volonté de donner l'âme de la personne photographiée que dans les photos de Michel Foucault, d'Albert Cohen, de tous les artistes. Elle a une façon qui n'appartient qu'à elle de nous focaliser. En plus, quand on regarde, on oublie parfaitement ce qu'il y a autour. Il y a que l'intensité du regard, la gestuelle, jamais de sourire.
Oui, elle détestait l'idée d'enjoliver quelqu'un. Elle voulait pas le rendre laid, non plus. C'était pas l'idée. Elle voulait, il y a des photographes qui aiment ça, comme Diane Arbus. Souvent, elle transforme, c'est un peu aussi des autoportraits, mais elle transforme parfois les personnes en êtres grimaçants. Non, Martine, elle essayait de les comprendre. Elle les abordait toujours quand il s'agissait d'écrivains en ayant lu leurs livres, un peintre en ayant regardé leur œuvre. Puis quand elle travaillait avec des personnes âgées, elle a beaucoup travaillé avec les petits frères des pauvres. Elle se renseignait sur les gens qui faisaient partie de la maison, en fait, voir s'il y avait des gens qui étaient particulièrement isolés, comment on pouvait parler avec eux. On voit bien dans une même alcôve à la Fondation en ce moment, il y a des portraits de gens très célèbres et puis des portraits de gens anonymes qui sont mélangés et ils sont photographiés exactement de la même façon. Mais exactement pareil.
Et puis alors, elle avait, alors, à l'autre extrême, elle a beaucoup photographié de personnes âgées. D'ailleurs, elle a fait un travail récurrent, mais très conséquent à la fin de sa vie sur la vieillesse. Mais il y avait les enfants aussi. Elle disait d'ailleurs qu'elle avait une envie de mettre des enfants dans les photos de ses reportages, quand elle allait en Irlande. Elle était vraiment portée plus particulièrement à ce genre de photographie.
C'est quelqu'un qui aimait beaucoup la vie. Et je crois que très particulièrement, parce qu'on aime tous la vie à différents degrés, mais pour elle, c'était quelque chose de très important. D'ailleurs, c'est elle qui avait inventé le nom Viva pour l'agence également. Enfin, tout ça, c'est lié à la vie. Et pour elle, les enfants, c'était un peu la symbolique de cette envie de courir, du mouvement, de l'agilité, de la vérité aussi. Elle cherchait toujours une vérité chez les gens, qu'ils soient connus, âgés, pas âgés. Et chez les enfants, c'est beaucoup plus facile à obtenir, et puis je pense qu'elle les mettait en confiance, donc elle a très bien réussi à photographier les enfants.
Et alors dans son travail, il y a des choses qui reviennent très fréquemment, elle est même bien retournée pour voir le passage du temps aussi sur les endroits qu'elle avait photographiés, et elle était très attirée par le bouddhisme, et elle a toujours beaucoup travaillé justement sur les moines et sur ces fameux enfants qui sont choisis très jeunes pour être la réincarnation de grands maîtres bouddhistes. Ils s'appellent les Tulkas et on va écouter ce qu'elle en disait. C'était en 1998.
Ce qui m'a fasciné dans ces monastères bouddhistes, justement, ce sont les enfants qu'on considère comme les enfants donc réincarnés. Et je me suis beaucoup penchée sur la façon dont on élève ces enfants, leur éducation. Et finalement, ce sont eux qui vont devenir l'élite spirituelle de l'avenir. Et peut-être parce que j'étais en pension moi-même, je me suis sentie des affinités avec ces enfants finalement qui rentrent au monastère très jeunes, qui sont éduqués par des moines, qui ne voient pas de femmes autour d'eux et qui étudient très durement. Et j'ai remarqué que ces enfants, dans l'ensemble, sont des êtres exceptionnels. Dans ce monastère-là, c'est vrai qu'il y avait énormément d'animaux, il y avait des oiseaux partout. Et il y avait effectivement une grande complicité entre ce petit garçon et son maître qui ne grondait pas. Il avait du mal à lire, il devait mémoriser des pages et des pages de textes. Et il avait du mal, manifestement, il avait du mal. Et son maître avait compris. Alors, il y avait des moments comme ça où ils jouaient ensemble. Et puis, il y a eu ce moment extraordinaire où cette pigeon qui voltigeait dans la pièce, tout à coup, s'est posée sur la tête du moine. Il a vu que j'étais quand même fascinée par le fait que cet oiseau était sur sa tête. Et il ne voulait pas que l'oiseau s'en aille avant que je n'aie pu prendre la photo.
Ici, Martine Franck fait allusion à une des photos extraordinaires de cette exposition. Cette photo où effectivement on voit ce jeune garçon qui essaye d'étudier avec son maître, le moine, et il y a un pigeon qui est posé sur la tête du moine. C'est une photo merveilleuse.
Oui, c'est tout à fait inattendu. Ça renvoie à d'autres rituels sacrés chrétiens ou je ne sais quelle autre religion, mais on a souvent vu ça. Martine et Henri étaient très très intéressés par le bouddhisme. Ils avaient suivi des rituels de formation, des séminaires. Et c'était vraiment quelque chose qui les passionnait. Martine était élevée dans une famille complètement athée. Henri dans une famille, comme il disait, c'était des cathos de gauche. Mais lui, ça l'intéressait pas. Il était anard, point. Et cette philosophie, qui n'était pas une religion, les a beaucoup intéressés. Henri Cartier-Bresson disait que ça le calmait. On peut comprendre, comme le dessin, dont il parlait comme une méditation. Et Martine était tout à fait fascinée par une photographe de Magnum qui s'appelait Marilyn Silverstone, qui était devenue nonne bouddhiste et qui lui a permis d'entrer dans ces monastères. Elle a comme ça pu entrer dans quelques monastères dans différents pays, en Chine, au Tibet, et suivre à nouveau ce phénomène éducatif de transmission. Comme elle le dit très bien, c'est vraiment la transmission qui l'intéressait dans ce phénomène, qui est quand même assez curieux, puisqu'il y a parfois, alors, il y a un petit garçon qui doit avoir 2 ans et demi, qu'on enlève à sa famille, enfin, la famille est consentante, et ils peuvent voir leurs parents, et qu'on va éduquer, jusqu'à ce qu'il devienne lama, et qui sait, un jour, peut-être, le grand Dalai Lama.
Mais elle a cette récurrence tout au long de son travail, Martine Franck, évidemment pour les bouddhistes. Et il y a aussi, on voit à quel point ça a compté pour elle. Elle est retournée plusieurs fois dans une petite île irlandaise qui s'appelle Torrey Island, où elle a aussi là photographié beaucoup d'enfants. Qu'est-ce qui l'attirait particulièrement dans cet endroit?
Alors je pense que c'est l'aspect un peu surréaliste des lieux. C'est un petit royaume avec un roi. Il y a beaucoup d'artistes qui vivent dans cette île et ils ont eu les pires ennuis du monde. On a voulu leur empêcher d'avoir un roi, on a voulu leur couper l'électricité, on a voulu si on a voulu ça. Ils vivent un peu en autarcie. Finalement, je crois que bon gré mal gré, ils ont réussi à continuer leur chemin. Et elle a été très intéressée par la solidarité qu'il y avait dans cette île entre les quelques habitants qui vivaient là au large de l'Irlande. Tout le monde se connaît, bien sûr, c'est comme une très grande famille. Et comme elle le dit un peu plus tout à l'heure dans une interview, Martine a grandi en pension. Et je pense qu'elle est très sensible à cette vie familiale, de groupe, avec beaucoup d'agitation, beaucoup d'enfants. Comme elle a beaucoup aimé sa vie, moi je l'ai connue à Magnum, quand elle est rentrée à Magnum en 82, quelque chose comme ça, ou 3. Cette vie de groupe où on partage beaucoup de choses, où on s'engueule aussi, et je crois qu'elle était attirée par ça. En plus, à Tory Island, il y a des paysages absolument somptueux, des très belles pierres. Et des très beaux paysages. Ça fait penser au film de Truffaut, une photo de mariée comme ça sur une plage. Et ça lui a permis aussi d'exhumer sa partie anglaise, puisque Martine a une mère écossaise et elle a toujours été à l'aise avec tout ce qui était anglo-saxon. C'est sa langue maternelle, donc elle lit plutôt en anglais qu'en français. Et elle comprend très bien les paysages anglais.
Avant de se quitter, parce qu'il faut bien se quitter aussi, Agnès Cyr, on va lui redonner la parole. C'est très joli ce qu'elle dit. Elle parle de la lenteur.
J'ai l'impression de témoigner de ce que je vois. Les choses viennent à moi, je vais à la recherche. Peut-être que je ne me pose même pas de but. J'essaie de m'approcher des gens. Si c'est un reportage sur un lieu, je m'y vive, je prends mon temps. D'ailleurs, je suis en train de lire un très beau livre en ce moment sur l'éloge de la lenteur. Et je trouve qu'il faut une certaine lenteur en photographie pour compenser justement la rapidité de l'image. Il faut se donner du temps. Se donner le temps de trouver la photo.
Il n'y a pas qu'en photographie qu'il faut se donner du temps. Un éloge de la lenteur qu'on a bien envie d'entendre en ce moment, Agnès Cyr. En tout cas, cette très très belle exposition Martine Franck, c'est à voir à la Fondation Cartier-Bresson jusqu'au 10 février. C'est 79 rue des Archives pour cette nouvelle adresse. Le catalogue est édité chez Xavier Barral. Et après, en février, prochaine expo.
Le lauréat du prix Henri Cartier-Bresson, Guy Tillim, sud-africain résident au Cap, et qui a fait un projet sur la décolonisation, les capitales africaines et ses grandes avenues. Ça s'appelle Museum of Revolution.
Merci infiniment, Agnès Cyr. À bientôt. Au revoir.
Merci beaucoup, Kathleen.